Bonjour, chers amis. Je remercie le Seigneur d'avoir entendu cette présidence. Je n'en avais jamais espéré autant. Nous sommes bénis dans l'Église. Nous avons plusieurs personnes qui président avec un cœur et une foi très grande et Dieu soit loué. C'est vraiment l'œuvre de Dieu par leur bouche, par leur témoignage. Et alléluia. Que Dieu achève en eux, dans tous ces hommes qui président l'Église maintenant. Ils sont quatre, on était cinq, et encore il y a peu, mais nous sommes encore, il y en a encore quatre. Que Dieu achève en eux ce qu'il a commencé et qu'il le fasse pour sa gloire. Que la lumière de Christ, comme Vincent l'a dit, émane de leurs propos, de leurs regards, de leur vie, de leur témoignage. Amen. J'ai préparé bien sûr un enseignement, mais je suis allé pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'habite un petit village, je suis allé dans un cimetière où reposent les membres de ma famille, où je sais pas mal de choses sur eux, sur leur vie. Leur vie a été difficile, très dure, ils ont eu beaucoup d'épreuves et nous aujourd'hui, avec cette expérience du coronavirus, nous n'avons pas été préparés aux épreuves importantes. Il faudra s'y habituer, il faudra avoir du courage et s'accrocher au Seigneur Jésus, avoir une relation très forte avec lui. Beaucoup de la population n'a pas cette force et beaucoup de personnes attrapent des problèmes psychiques, moraux, etc. Et donc, tout était déréglé. En Wallonie, par exemple, depuis le début du confinement, 77% de mariages en moins. En Flandre, 33%. C'est assez étonnant. Et voyons aussi les couples qui ne sont pas mariés, mais qui vivent ensemble. Combien de problèmes. Et combien de problèmes chez les enfants. Faudra-t-il retourner à la parole de Dieu pour toutes ces personnes, je le pense. Sinon, ils vont sombrer encore plus profondément dans le chaos. Voilà, donc sachez que vous êtes en demeure d'être cette lumière, comme Vincent l'a expliqué. Sachez que vous êtes en demeure d'apporter ce qu'il leur manque, non pas avec un esprit de prérogative, d'orgueil, de superbe, mais un esprit de service, un esprit d'amour. Car nous ne pouvons pas laisser nos frères et nos sœurs sur cette terre mourir psychiquement ou spirituellement ou physiquement, économiquement, sans broncher, voilà, sans bouger. Notre devoir est de nous intéresser à nos frères et sœurs sur la terre. Je ne prends pas ce mot frères et sœurs, comme je viens de le dire, au sens d'un chrétien, une chrétienne qui sont frères et sœurs, mais je le prends au sens que nous descendons tous des mêmes ancêtres, Adam et Ève, et que nous sommes issus du même sang, et que nous n'avons pas à renier nos origines et nos liens communs. Quelle que soit la race, la couleur, l'origine, le grade, le rang social, la tradition, la culture, essayons de nous approcher des autres, bien que parfois il faille beaucoup de prudence avec certains, mais essayons de nous approcher avec une profonde liberté intérieure, celle de l'amour de Christ. Bon, quand vous pensez à la Toussaint, vous pensez aux morts, et puisque j'ai été 10 minutes, un quart d'heure dans le cimetière, non pas pour prier, parce que je ne prie pas pour les morts, je dois vous dire que un saint, tel que l'Église catholique l'enseigne, c'est quelqu'un d'admirable, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à gravir, il a atteint les derniers échelons de la perfection, c'est un exemple, c'est un exemple qui n'est pas pour nous joignable, ce sont des témoins, mais c'est l'Église, c'est leur papauté qui reconnaît l'état de sainteté des personnes. Ce n'est pas du tout évangélique, ce n'est pas du tout biblique. Le seul modèle que nous avons, c'est Jésus-Christ, qui est sans péché. Et il faut bien faire attention, nous n'avons pas à chercher un modèle de perfection chez une personne quelle qu'elle soit, même si elle avait des vertus. Nous trouverons toujours des ombres, nous trouverons toujours des fausses lumières, nous trouverons toujours des limites. Tous les êtres humains sont imparfaits. Mais il faut faire attention que dans les paroles de Dieu, il est dit souvent, celui qui a commencé en vous, hein, celui qui a commencé en vous son œuvre, l'achèvera. Il est fidèle et bon. C'est dans les deux épîtres aux Thessaloniciens. Donc Dieu est en mesure de conquérir sur un terrain qui a été désagrégé, abîmé, par un état de péché, par un état de méconnaissance de Dieu, des erreurs, des gaffes ou des monstruosités qu'on a fait. Dieu est capable de conquérir le terrain pour l'assainir, le défricher et le rendre fertile. Et par sa personne, par la vertu de sa parole et du Saint-Esprit. Donc, nous sommes tous en chemin, il n'y a personne qui arrive au bout du chemin parfait devant Dieu. Dans la première épître de Jean, au chapitre 3, il est mis que lorsque nous verrons Jésus, nous lui deviendrons semblables. L'achèvement se fera par Jésus, le Fils de Dieu. L'outil de perfectionnement sublime, suprême de Dieu pour nous. Donc, je voudrais prendre un petit verset dans la première à Timothée, au chapitre 6, chapitre 6, verset 11. « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, donc l'amour de l'argent, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc voilà quelqu'un qui n'a pas caché sa lumière, n'est-ce pas, sous le boisseau. « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche. » Vous savez, devant Ponce Pilate, Jésus n'a pas dit grand-chose. Pilate était insatisfait, frustré, encore plus Hérode. Là, il n'a rien dit à Hérode. Mais ce qu'il y a à Pilate, il a dit, mais Pilate le pousse à bout, il dit, mais tu es roi, tu es le roi des Juifs ou non? Alors, oui, tu l'as dit, je suis roi. Mais je ne suis pas un roi comme les rois dans ce monde. Je suis venu, mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc il faudra attendre un certain temps que le temps du monde, le temps des fausses vérités cesse, des magouilles en tous ordres, et puis il y a ce royaume de vérité avec Jésus. Mais Jésus a dit à Pilate, mais si mon père voulait, il me donne 12 légions d'anges, aujourd'hui je suis libéré, je vais vaincre ton empire là, de Rome. Donc clairement Jésus a une position très claire vis-à-vis de Pilate, c'est ça la confession. Il a une autorité, mais très humble. Et en même temps, il va au sacrifice pour le rachat de nos péchés. Quand Pilate constate que Jésus n'est pas un assassin, n'est pas un criminel, et qu'il dit après à la foule et aux responsables religieux, « Mais il n'a pas de crime, je ne peux pas le tuer. » La foule crie « Crucifie-le ». C'est une foule organisée. Vous savez comment on peut faire dans certains meetings politiques, meetings de fanatisme. On choisit ces gens, on les réunit, puis ça hurle, et puis les autres, ils sont loin, ils ont peur. Hein. Même s'ils sont une majorité, ils ne disent rien. Une majorité silencieuse se fait évincer par une minorité arrogante, vociférante. Souvent, en politique, dans les grands événements qui ont dirigé le monde, c'est comme ça. Et donc, c'est un grand événement du monde, la venue de Jésus. C'est le plus grand pour moi, c'est le salut qui est apporté par cette personne. Et donc, il est refusé, ce salut. Et Jésus a fait sa confession de manière très humble, mais de manière très formelle, très claire. Et c'est pour ça qu'il a mis ceci, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. » Il s'agit de Dieu. Quel beau nom, n'est-ce pas, pour Dieu, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc la lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle, c'est celle de Dieu. Quand Jésus est venu et qu'il a dit « Je suis la lumière du monde », c'est à ce titre. C'est une lumière inaccessible. Il n'y a personne qui peut dire « Je suis saint ». Je vais avoir une autorité dans le ciel pour prier pour vous. Je vais sur terre déjà faire des miracles parce que je suis saint. Et il n'y a personne sur terre qui peut dire « Je suis votre modèle ». Quand vous avez des apparitions à Lourdes, Metzougorgé, Fatima, etc., Beaurain, etc., il faut faire attention. Ce ne sont pas des propos bibliques. Ce sont des propos contre les affirmations bibliques. Et il ne faut faire attention qu'à ce que Dieu a donné en Jésus-Christ. La lumière inaccessible, donc à laquelle on n'a pas accès, est venue jusqu'à nous et s'est approchée de nous, et s'est fait, est apparue, s'est manifestée. Et nous avons la grâce de pouvoir la connaître. Demandez à Jésus de venir dans votre vie, vous verrez ô combien la paix et sa lumière sont bienfaisantes, douces et bonnes. Et plus vous approfondirez votre relation avec Dieu, pas votre religion, votre relation avec lui, vous allez découvrir les profondeurs de son amour, la hauteur, la largeur de son amour. C'est incroyable, tellement c'est immense, c'est beau, c'est considérable, c'est une personne admirable en elle-même. Donc, je dis bien, il n'y a pas de saint, il n'y a pas de fête de tous les saints. J'insiste là-dessus. Maintenant, puisque nous mourons et puisque nous avons une destinée mortelle, qu'est-ce que nous devenons? Eh bien, dans 1 Corinthiens 15. Oh, ce n'est pas des choses que j'ai préparées d'avance, ce que je vous dis là. Des choses que j'ai sur le cœur tout le temps, en permanence, parce que je rencontre des personnes. Ce sont des propos qu'il faut que je partage. C'est une lumière qu'il faut diffuser, donner. Dans 1 Corinthiens 15, il est très important, verset 35, quelqu'un dira « Comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils ?» Insensé donc, tu manques d'intelligence. « Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » Donc imaginez un grain de blé, vous mettez un grain de blé dans le sol, eh bien, il va donner une tige, un épi avec plusieurs grains, mais celui qui est dans le sol, si vous allez le voir, il est mort. Il a donné toute son énergie, il a fait des racines, et puis il a donné 30, 40, 60 grains. Il en est ainsi de la vie que nous avons. Nous passons par la semence, nous passons par la croissance, nous passons par la fructification, nous passons par la décroissance, la mort, et puis ensuite quoi? Eh bien ça, c'est intéressant de continuer à lire le texte. Ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc la graine de tulipe, hein, l'oignon, la graine de blé, la graine d'escourgeon, d'avoine, c'est pas de toutes les fleurs, est différente d'une à l'autre. Hein? Comme chacun de vous est différent de son voisin, de son frère, de sa sœur, de son père, de sa mère. Chacun est unique. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes. Donc il y a une différence. Chair, sarx, l'humanité est différente. D'un côté, du côté des hommes, elle n'est pas la même du côté des animaux. Il y a une distinction qui est prononcée. Alors, je vais plus loin parce que c'est très long ce texte, c'est pas mon but aujourd'hui. Alors, il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Autre est l'éclat des corps célestes, les étoiles, autre celui des corps terrestres. Une étoile brille dans le ciel et moi je ne brille pas. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Et autre, l'éclat des étoiles. Mais une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça revient même de dire qu'il y avait des fleurs, etc., des plantes différentes. La distinction, l'identité de chaque semence, de chaque espèce, de chaque variété dans les espèces, est bien définie par Dieu. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, donc nous naissons, puis nous mourons. il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé... Donc quand je dis infirme, nous avons tous potentiellement des maladies. Parfois, nous voyons des enfants avec des problèmes de santé, déjà, au départ de leur vie. Mais ne croyez pas que, même si vous êtes en pleine forme, vous n'en aurez pas. C'est de la présomption. Et donc, nous avons des infirmités potentielles ou déjà présentes. Et nous naissons infirmes. C'est quelque chose... Pourquoi ? Parce que l'être humain a été créé parfait en Dieu, Adam et Ève, et puis suite à la séparation avec Dieu, cet esprit de présomption, de vanité qui s'est installé dans l'homme, volontairement, d'indépendance, une déchéance, une déprévation est venue dans notre corps et dans notre esprit. Et c'est ainsi que nous la mesurons de plus en plus. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de maladies orphelines. On investit des milliards dans tout ça, mais il en vient toujours plus. Et il vient toujours de plus en plus de maladies psychiques partout. On va dans une dépravation, une décroissance génétique, psychique, matérielle dans ce monde. Et ce n'est pas finalement parce que je suis pessimiste que je dis cela. Parce que je crois à la résurrection, je crois au royaume de Christ, au nouveau ciel, à la nouvelle terre. Mais je ne crois pas à la théorie de l'évolution qui dit que tout va vers une expansion positive, etc. etc. Et à quel prix, chers amis ? Cette expansion positive, c'est au prix de la sélection naturelle. Éliminer les plus faibles, sans pitié. Et donc, l'eugénisme, déjà, qui est pratiqué à l'égard des femmes enceintes, quand on mesure l'état de la tête, de la situation du corps, dans le ventre d'une maman, on dit déjà, il faut l'évacuer ou pas. L'eugénisme est en route. Et il y a, bien sûr, d'autres formes d'eugénisme. Nous n'allons pas faire des digues au bord de la mer, à l'entour du monde entier, pour protéger les îles devant la montée des mers. Nous allons en faire pour les pays riches, pas pour les autres. L'eugénisme existe, que nous voulions ou non. Que nous fassions travailler des gens 16 heures par jour, 6 jours, pour avoir des t-shirts, des habits, des chaussures à bon marché, et faire une économie ronflante ici, et que les autres périssent dans la misère, c'est une forme d'eugénisme pour moi. Parce qu'il y en a beaucoup qui en ont marre de la vie, qui se suicident, qui finissent mal, dans des conditions de travail dégradantes. Donc, je vais dire que l'infirmité est plus qu'une infirmité personnelle, physique. L'infirmité gagne le monde. Et le coronavirus en est une. Donc, il est semé, le corps est semé animal, il ressuscite spirituel. Alors, ça, ce que je veux vous dire au verset 44, c'est que nous sommes habités de tendances animales. Nous vivons souvent comme des animaux. D'ailleurs, il y en a qui l'ont prétendu. On descend du singe. Or, la théorie des chaînons manquants, la théorie de la succession par les chaînons manquants, n'est pas prouvée scientifiquement. C'est une religion. C'est une fable bien construite et défendue par toutes sortes de personnes qui ne veulent plus entendre parler de la Bible ni de Dieu. Et scientifiquement, ce n'est pas tenable. Mais nous sommes, bien sûr, très ressemblants aux animaux, par toutes sortes de choses, par nos comportements, par notre physique, nos organes, etc. Nous sommes semés corps animal, nous ressuscitons corps spirituel. Donc nous devenons un être spirituel, un être habité de la plénitude de Dieu. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Ça nous est destiné. C'est notre destinée, à nous humains, de passer, depuis le péché d'Adam, par une époque de décroissance, on peut dire animale, et de retourner vers le vrai prototype du spirituel, Jésus-Christ, de l'aimer, de l'accepter, et de recevoir la puissance de résurrection du Saint-Esprit pour être dans le processus de la transformation et être un être spirituel, devenir un être spirituel, sortir du bourbier animal. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, nefesh, c'est-à-dire il a un souffle en lui, il a un souffle de vie. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire un esprit qui donne la vie. C'est plus que mon souffle à moi, mon âme. C'est un esprit venu d'autre part, accompagné et dirigé par l'Esprit Saint. Donc, qui n'est plus appelé à décroître, mais à grandir, à perfectionner. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Lisez tout 1 Corinthiens 15, s'il vous plaît, lisez-le, vous allez avoir réellement un bon message pour la Toussaint. Si bien sûr vous aimez une description mécanique de la résurrection, mécanique, ah, une description mécanique, vous allez dans Ézéchiel, et bien sûr je ne vais pas le lire, mais juste quelques mots pour vous donner l'eau à la bouche, comme on dit. Ézéchiel, c'est un prophète de 6 siècles avant Jésus. Ézéchiel 37. Si vous êtes curieux et que vous avez besoin de lire, lisez déjà à partir de Ézéchiel 36, verset 22. Vous avez un renouveau spirituel, le don du Saint-Esprit qui est annoncé là. Ézéchiel 36, verset 22 et suivant. Vous allez voir qu'on est débarrassé de toutes nos souillures par l'œuvre gratuite de Dieu, par son œuvre gracieuse. Ça correspond à 1 Corinthiens 15, à ce que je viens de vous lire. Ensuite, il y a la description mécanique de la résurrection. Alors, cela, c'est dans Ézéchiel 37, au verset 9. Prophétise, parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, dis à l'esprit, donc à Nefesh, l'esprit humain, ainsi parle le Seigneur éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ses morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. L'esprit entra en eux, ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Combien de gens, à la Toussaint, pensent cela? Il y a une particularité bien précise ici en Europe depuis 50 ans. Nous avons tellement eu une facilité de vivre, l'aide de la médecine, qu'il semble que la mort n'est plus notre condition. Il semble que la mort, on peut y échapper. Et cela, c'est un drame spirituel et psychologique, parce que nous allons mourir. Alors, regardez les témoignages de personnes qui sont dans les EHPAD, les maisons de retraite, lorsque la radio et la télévision vont les interviewer. Elles sont accrochées à la vie d'une façon incroyable, mais elles ne sont pas tournées vers Dieu. Je ne vois aucun témoignage, à travers ces personnes, d'une espérance, d'un don de vie éternelle par Dieu, en Jésus-Christ. Elles ont pris l'habitude de vivre avec l'être qu'elles sont. Ces personnes, on veut vivre et continuer à vivre et pas mourir. Et notre société, si elle lâchait ces personnes, se condamne psychiquement elle-même en disant « nous sommes tous condamnés à mourir ». Donc on s'accroche au bastingage, au bord du bateau. On a déjà, la tempête nous a jeté déjà à l'extérieur du bateau, on s'accroche au bastingage et au secours, au secours. J'ai mon gilet de sauvetage, je suis en EHPAD et je veux échapper aux microbes du coronavirus. Mais ce qu'il y a, quand j'aurai échappé au coronavirus, qu'y aura-t-il le jour d'après, les jours suivants? On dirait que la mort est reniée. Moi je pense que la richesse d'un homme est d'accepter sa mort, de considérer qu'il est né pour mourir et qu'il est né pour revivre, ressusciter. Et là, c'est la consolation. Là, c'est source d'espérance. Autrement, dans l'autre situation, en première, c'est source d'angoisse, source de tribulation interne. Et il faut quoi faire? Mais au moment où on panique, dans les dernières heures, la petite piqûre du confort pour ne plus être tourmenté, et surtout qu'il ne vienne pas un pasteur parler et prier en disant que la personne va mourir. Je me suis fait déjà rebooter plusieurs fois, catapulté, gentiment ou de manière sèche. Et je vais vous dire, c'est devenu une technique, une pratique régulière maintenant. Nous sommes des mauvais oiseaux, de mauvais augure lorsque nous voulons parler de la mort et de la résurrection. Parce que pour notre société, notre culture occidentale, il n'y a pas de mort. Donc il n'y a pas besoin de pasteur, il n'y a pas besoin de prêtre, et il n'y a pas besoin de venir prier et parler de mort et de résurrection. Blackout complet sur le spirituel au sens judéo-chrétien. Alors on va chercher vers les énergies terrestres, les énergies positives. Vaste blague. Vaste blague. Alors, si vous lisez Ézéchiel 37, nos os sont desséchés, verset 11. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Eh oui. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos tombeaux, mon peuple, je vous ramènerai dans le pays. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que, juste avant, au verset 4, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, vous ferai croître sur vous de la chair, vous couvrirez de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Vous saurez, je suis l'Éternel. Il faut donc que nous passions par la puissance de la résurrection pour reconnaître la grandeur de Dieu. La grandeur et la toute-puissance de Dieu. Chers amis, donc lorsque la Toussaint est arrivée, chaque année elle se répète, maintenant on parle de fête d'automne parce qu'on ne veut plus parler de Toussaint, mais sachez bien, il faut se tourner vers l'expérimentation de la puissance magistrale de Dieu sur nos vies, qui est la puissance de résurrection. Et la puissance de résurrection est en Jésus-Christ. Voilà ce que j'avais à vous dire à propos de la Toussaint. Jésus-Christ est la lumière du monde parce qu'il est la résurrection et la vie. Pour chacun de vous comme moi. Alors, j'avais à cœur de vous parler de la vie, de l'amour de Dieu pour vous. Pour tous ceux qui sont peut-être désespéré. Qu'est-ce que Dieu souhaite le plus? Nous allons lire ceci dans Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3. Je serai bref, parce que j'ai déjà parlé beaucoup. Je vais commencer au chapitre 2, verset 11. C'est un préalable nécessaire. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Jésus-Christ, évidemment. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, donc au manque de foi, c'est ce que je viens de vous exprimer, le manque de foi généralisé et bien installé chez nous en Europe. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Alors là, pour ça, on les a développées, nos convoitises. Hein, au prix d'immenses sacrifices, de grandes populations dans le monde qui sont devenues nos esclaves. Hein. Pour qu'on ait le grand confort. Nous préférons, dans notre famille, cultiver notre jardin et avoir mal au dos et piocher, avoir nos légumes, notre farine, que de toujours puiser dans la bouche des autres. Il faut réellement que chacun de vous considère qu'il faut se remettre en question. Notre société est basée sur des mécanismes systémiques injustes. Donc, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, à Ionne, donc cette période jusqu'au retour de Jésus, selon la sagesse, la justice et la piété. Contre vous, c'est tout simple. Sagesse, justice et sainteté, hein, et la piété. Mais on la trouve en Jésus, évidemment. C'est pas dans Sainte Rita, Sainte Claire ou Saint Benoît, Saint Jean-Paul II. Pas du tout. Alors, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus ressuscité, qui apparaîtra dans sa gloire et qui va nous donner quoi? On va voir. Qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Donc, l'iniquité, le péché, c'est une désobéissance à Dieu, basée sur notre instinct de présomptueux, vaniteux, mais ce qu'il y a, conscient ou inconscient, Mais l'iniquité, c'est quand on sait réellement ce que, qui déplaît par notre conscience ou parce qu'on a lu la Bible, on sait que c'est mal et on le fait quand même. Alors là, là, ça s'appelle l'iniquité. Lisez Romains 7, vous allez voir que Paul dit « Le bien que je voudrais faire, je ne le fais point, et le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps qui est en contradiction avec la vie éternelle, la vie de Dieu. » Eh bien, voyons ici, qui s'est donné lui-même, Jésus-Christ donc, pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, le peuple chrétien est un peuple qui en continuellement appartient à Jésus, le peuple de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont reçu vraiment la parole, et qui sont, se sont donnés à Jésus, qui ont reçu l'Esprit Saint, ils appartiennent, un peuple qui lui appartienne, donc on est citoyen d'un peuple. Mais pas au niveau politique, économique ou racial, un peuple. Purifié par lui, donc en voie de purification, continuellement en œuvre, d'amélioration, de remodification, de repentance, si vous voulez. Purifié par lui, zélé pour les bonnes œuvres. Zélé, c'est de l'ardeur. Les bonnes œuvres, ça veut dire les bonnes actions, les bons engagements. J'apprécie beaucoup de personnes chrétiennes qui, comme moi, ont bien des défauts, pratiquent des choses formidables. Par amour de Dieu et amour des autres. Je les apprécie. J'admire la compétence du Saint-Esprit dans leur vie. J'admire l'œuvre de Dieu en eux. Je n'admire pas seulement la personne, le chrétien, la chrétienne. J'admire ce que Dieu fait en eux. Et je rends grâce dans ma prière. Durant cette nuit, je dormais mal, parce que j'avais mal l'épaule droite, etc., le genou droit, enfin. Je me lève, je me relève, enfin. J'ai quand même dormi et prié. Mais je rendais grâce à Dieu d'avoir à côté de moi une femme généreuse. Je me rappelle quand j'ai rencontré, si mignonne, si jolie. Et au fur et à mesure du temps, je me rappelle la voir avec son gros ventron. J'adorais la voir avec son ventron. Parce qu'elle savait faire quelque chose dans sa vie que moi je ne savais pas faire. Et j'adorais ce que Dieu faisait à travers elle. Et les 6 enfants, 7, le premier étant mort. Cet enfant que nous avons eu. Et je voyais, je remerciais Dieu pour la générosité de mon épouse et qui continue. Elle n'engendre plus d'enfants, mais elle engendre de bonnes œuvres. Et ce qu'il y a, c'est que c'est l'évangile, c'est l'amour de Dieu qui avait ça en elle. Elle aurait pu vivre égoïstement, misérablement, rien que pour elle-même. Et elle a échappé à ce drame. Et elle est dans un chemin avec le Seigneur. C'est ça! Je remercie le Seigneur, alors qu'elle dormait comme il faut, sans commentaire en plus. Vous devinez. Dis ces choses, exhorte, reprends, avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Je vous le dis avec autorité, je vous encourage à faire partie de ce peuple purifié par Jésus, qui pratique des bonnes choses. Que le monde en rigole, on s'en fiche. Mais que Dieu se réjouisse au ciel, et que tous ceux qui ont un cœur sensible et vrai le reconnaissent, soient touchés, et tout d'un coup se jettent dans les bras de Jésus. Formidable! Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, exhorte, dis ces choses, reprends avec une pleine autorité, avec zèle évidemment, que personne ne te méprise. Je m'en fiche. Éperdument du mépris, je suis habitué à ça, mais personne n'a le droit, c'est ça que ça veut dire, personne n'a le droit de me mépriser. Personne. Mais ils peuvent le faire. Il y en a qui le font. Ce sera, c'est quelque chose de rhinocéros à la peau épaisse, n'est-ce pas? Voilà. Alors, continuons dans le chapitre 3 de Tite. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toutes bonnes actions, bonnes œuvres. Donc, il y a quand même un respect de l'ordre social. Non pas de l'ordre fasciste. Non pas des idioties à tout prix, hein? Toutes les modes politiques, c'est pas ça. D'être soumis aux magistrats aux autorités, c'est-à-dire de respecter un ordre social, de respecter le bien des autres. Notre liberté s'arrête où nous risquons de faire du mal aux autres. Avons-nous conscience qu'il faut être éduqué comme ça, déjà tout petit? Il y a le bien et le mal. Il faut éduquer nos enfants à savoir ce qu'est le bien et le mal. Il doit savoir que la liberté n'est pas à tout prix et n'est pas inconséquente. Alors, la liberté qui est digne respecte le bien des autres, tant mental, physique, économique. Alors, rappelle-leur de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Vous imaginez au verset 2. Conduisez sur la route, regardez bien. Et chers amis, nous sommes des ouvriers de la paix quand nous sommes chrétiens, de vrais chrétiens, nés de nouveau. Nous sommes des ouvriers de la paix. Notre cathédrale, c'est la société. Nous n'avons pas besoin de temples, de basiliques, de mosquées. Notre cathédrale où nous vivons, c'est la société avec les autres. Nous sommes amenés à être ouvriers de Dieu dans cette cathédrale qu'il nous a donnée, dans cette humanité, avec amour, avec vérité, humilité, douceur, simplicité, sans aucune arrogance. Comme Jésus. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Rendez compte du tableau au verset 3. Voilà ce que Paul dit à Tite. Alors, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, voici Jésus-Christ. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice, donc j'ai des mérites, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je serai au ciel, je vais aller au ciel. Ou j'ai pratiqué ma religion, je vais au ciel. Taratata. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Sa miséricorde, son amour infini, incommensurable, illimité et agissant mes amis, actif selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Voilà quelque chose de nouveau, c'est que si Dieu a envoyé son Fils, il l'a manifesté, sa bonté, son amour au verset 4 en Jésus-Christ. Au verset 5, il manifeste son amour actif, sa miséricorde, transformante, salvatrice, bénéfique, avantageuse pour nous, à tous égards, à tout niveau de vie, par la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Nous sommes régénérés, engeneto, nous rentrons dans une nouvelle race qui n'est plus soumise au péché, qui n'est plus esclave, bien que le péché existe encore, il faut se surveiller soi-même et être assez critique à l'égard de soi-même, par honnêteté vis-à-vis de Dieu et des autres et de soi-même. Mais ce qu'il y a, nous avons en nous le gène de Christ, nous avons en nous l'Esprit Saint. Nous avons en nous une puissance conductrice, révélatrice, et qui accomplit, active, opérante. Donc le baptême de la régénération, le baptême, c'est l'image, à l'époque des Romains, un esclave était enlevé de son pays, on l'amenait à Rome dans le défilé derrière des milliers d'autres esclaves, et puis ensuite il était vendu. Un grossiste, en lot de 1000, 10 000, et puis après, en sous-traitance, des lots de 100, de 50, de 20, de 10. Et un esclave arrivait dans une famille, peut-être avec un autre, pour s'occuper du bétail, l'autre du jardin, ou simplement nettoyer la maison, ou refaire les murs, refaire le toit, etc. Faire les cueillettes, les récoltes. Cet esclave était plongé dans l'eau. Et on disait, tu t'appelais, par exemple, Noémie Bayouzous, de Gomrisius, Belgicus, eh bien, tu vas t'appeler maintenant Myriam Justinus, Cassus, de Pompéi, et tu ne sors pas de la propriété, sinon quick. Donc, le baptême était forcé, et on était plongé dans l'eau devant la famille ou la population locale. C'était une dépersonnalisation de la personne, une perte de toutes ses racines, son identité, formelle, politique, tout, spirituel, tout. Ensuite, il appartenait à la famille pour toujours. Et s'il faisait des enfants, c'était aussi les enfants des propriétés du propriétaire. Ils portaient le même nom. Alors, ce qui se passe, il ressuscitait, c'est-à-dire, il sortait avec une nouvelle identité d'esclave. Il n'était plus libre, il était devenu esclave. Et le baptême était un acte symbolique très fort. Eh bien, quand le christianisme est venu, eh bien, le baptême, c'était simplement un acte volontaire et libre, pas obligé, d'adulte qui aimait Jésus, qui abandonnait ce que nous voyons au verset 3, insensé, désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise, de volupté, vivant dans la méchanceté, dans la vie, digne d'être trahi, nous haïssant les uns les autres. Voilà la vie précédente. Quand je suis plongé dans la vie divine, je suis plongé dans la vie divine, tout cela meurt. Tout cela est déblayé, condamné à la croix. Jésus l'a porté à la croix pour moi. Tout ça est mort. Ensuite, quand je ressors, je reçois le Saint-Esprit, je reçois la vie nouvelle. D'où le baptême par immersion dans les églises évangéliques, baptistes. Le baptême n'est qu'un symbole, il ne donne pas le salut. Le salut vient quand la personne accepte Jésus et reçoit de plein cœur le renouvellement de son esprit. Alors, nous sommes loin de la Toussaint, n'est-ce pas ? Mais en même temps très proches. Chapitre 3, verset 5. « Selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Jésus nous donne une régénération, une nouvelle semence. Nous ne sommes plus de la semence d'Adam, nous sommes de la semence de Jésus-Christ. Nous ne sommes plus de l'esprit du monde, nous sommes de l'esprit de Jésus-Christ. Nous sommes passés de l'état animal à l'esprit saint, c'est-à-dire à la condition spirituelle que l'humanité avait perdue avec le péché d'Adam et Ève. Cette parole est certaine. Tite 3, 8. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, bons engagements, bonnes œuvres, bonnes actions. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Donc, ne causons plus de religion. C'est ça, c'est clair. Moi, j'évite toutes ces discussions. Islam, catholicisme, etc., protestantisme. Basta, on y perd son temps. Éloigne de toi, après un premier et second avertissement, de celui qui provoque des divisions. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti, qu'il pêche, il se condamne lui-même. Donc vous voyez, dès le moment où on est né de nouveau, il y a des fréquentations dont il faut prendre une certaine distance. Les mauvaises compagnies corrompent les mauvaises mœurs, ça dit.
Les bonnes mœurs.
Corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, dit Paul dans Corinthiens. Alors, chers amis, aujourd'hui, la Toussaint, c'est quoi ? Vous êtes tous saints si vous avez aimé Jésus. Vous avez donné votre vie à vous. Vous êtes tous saints si Jésus est accepté dans votre vie tous les jours. Pas une fois pour toutes, tous les jours, avec amour. Vous êtes tous saints si vous laissez faire l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Et vous n'êtes pas saints de telle manière que vous devenez quelqu'un d'adorable qui va intercéder pour les autres. Non, vous êtes saints dans la mesure où vous obéissez à Dieu. Vous marchez dans la voie de la sainteté, vous serez rendu saint pleinement, face à face, quand vous verrez Jésus-Christ. Donc vous êtes en chemin dans la sainteté, par obéissance, par amour de la sainteté, et par la force du Saint-Esprit. Voilà la fête de tous les saints. Chers amis, bonne fête de Toussaint. Il n'y a pas besoin de parler de fête d'automne. Bonne fête de Toussaint. Si vous avez accepté Jésus. Et si vous l'acceptez aujourd'hui, bonne fête de Toussaint. Ou demain ou après-demain. Vous êtes parmi tous les saints. Tous les saints de Dieu, c'est-à-dire tous ceux qui lui appartiennent, dont il fait un peuple saint petit à petit jusqu'au grand rendez-vous au retour de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes, par orgueil, par prétention. Nous n'avons aucun badge et décoration. Nous sommes en processus permanent de sanctification, de sainteté par le Saint-Esprit. Bonne fête de Toussaint.